Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Inondation meurtrière dans l'Aude, au moins une douzaine de morts après un violent épisode méditerranéen. Comment prévenir ce type d'événement? Quelles sont les solutions existantes? Dans ce journal, le reportage de Stéphanie Glaizis et le commentaire de notre invité, le chercheur Daniel Scherzer de l'École nationale des ponts et chaussées. Pascal Le Pavageau ne répond plus. Le patron de Force ouvrière serait en arrêt maladie en raison du scandale du fichage des dirigeants de FO. Des voix s'élèvent en interne pour réclamer sa démission. Nous ferons le point avec Sarah Lemoine. À l'étranger, la police turque a pénétré ce soir dans l'enceinte du consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. C'est là que l'opposant saoudien Jamal Khashoggi a disparu il y a 15 jours. Les précisions de notre correspondante en Turquie, Anne Andlauer. 12 morts et 8 blessés, voilà le dernier bilan des violentes inondations qui ont frappé le département de l'Aude la nuit dernière. Pour la seule commune de Trèbes, à côté de Carcassonne, on déplore 7 victimes. En l'espace de 5 heures, il est tombé jusqu'à 300 mm d'eau, soit l'équivalent de 3 mois de pluie. Le Premier ministre Édouard Philippe s'est rendu cet après-midi dans la commune de Villegayenc, où la crue a tué 2 habitants. Le reportage de Stéphanie Glaizis.
Villegayenc ce soir, c'est un paysage de désolation. Le pont central du village a été balayé et s'est effondré. Il y a des voitures entassées les unes sur les autres, des meubles qui sont stockés dans la boue dans la rue avec les gravats devant les maisons. Tout est allé très vite et André parle même d'apocalypse.
C'est dantesque, on est tous un peu angoissés là. Et on a vu une inondation en 99, mais ça avait débordé, mais bon, non, ça n'avait pas fait des dégâts. Mais on a été tous surpris parce que ça commençait à 11h, mais le gros ça a été à... Parce que moi je suis monté dessus dans les étages, et le gros ça a été à 2h du matin. Et là vous aviez un fleuve, pas une rivière, un fleuve, un truc de fou. C'est l'apocalypse.
Le Premier ministre a rencontré de nombreux habitants, il a joué l'empathie et il a dû faire face à la colère de Fabien, pas content des radios.
Moi j'avais un poste de radio, j'avais des consignes et j'avais aucune information à la radio. Et moi j'ai commencé à agir à 1h30 du matin et jusqu'à 7h il n'y avait rien. On nous dit consigne, affichez, prenez une radio, nous on l'a fait. Et donc j'ai listé, etc. Je vois la radio et tout. Et bien la radio, rien du tout. Ça. Et vraiment quand on attend le matin, on attend que le jour se lève. Hein. C'est vraiment super désagréable.
Le Premier ministre lui a répondu qu'un épisode comme celui-là était difficile à prévoir.
Il est vrai que l'épisode météorologique était par lui-même imprévisible. Je crois que les spécialistes, dont je ne suis pas, considéraient que la dépression allait circuler plus vite que ce qui s'est passé. Il est vrai aussi que faire passer d'une vigilance orange à une vigilance rouge à 3h du matin, c'est assez facile à dire. Mais pour que l'information arrive à tous ceux qui sont endormis ou à tous ceux qui ne sont pas forcément à l'écoute et on ne peut pas leur en vouloir, c'est évidemment beaucoup plus compliqué.
Le Premier ministre a aussi indiqué qu'il comptait déclencher le dispositif catastrophe naturelle accéléré pour que les habitants de ce village soient indemnisés plus rapidement.
Stéphanie Glaizis à Villegayenc. Villegayenc qui fait partie des 4 communes évacuées avec Pezins, Trèbes et Villemoustoussou. Les habitants ne peuvent pas rentrer chez eux jusqu'à nouvel ordre, indique ce soir la préfecture de l'Aude. Invité de ce journal, le chercheur Daniel Scherzer, enseignant à l'École nationale des ponts et chaussées, directeur de la chaire Hydrologie pour une ville résiliente. Bonsoir.
Bonsoir.
Daniel Scherzer, ce qui s'est passé cette nuit dans l'Aude est-il exceptionnel du point de vue météorologique ?
Alors c'est relativement exceptionnel, mais aussi c'est récurrent. Il y a différentes raisons pour lesquelles il y a ce genre de phénomène. Et effectivement, il faut apprendre à faire face à ces phénomènes. Leur fréquence relative peut changer un peu, tenant compte par exemple du changement climatique, mais de toute façon, les précipitations sont un phénomène extraordinairement non linéaire et qui produit le fait que leur distribution dans le temps et dans l'espace sont très hétérogènes.
C'est voilà. Ce que l'on appelle des épisodes cévenols.
Alors le mot cévenol est très particulier, de façon plus générale on parle d'épisodes méditerranéens.
Daniel Scherzer, on déplore de nombreuses victimes. Le bilan n'est pas encore connu complètement. Est-ce que cela veut dire qu'il y a eu peut-être des lacunes dans le système d'alerte ?
Alors ça, je ne peux pas me prononcer dans le cas précis. Ce qui est clair, c'est qu'actuellement, il y a différents axes de recherche qui ont été développés pour rendre ce qu'on appelle plus résilient nos systèmes urbains, nos systèmes de mobilité face à ces événements-là. Probablement, il y a, comme en région parisienne ou dans d'autres régions du monde, une marge très large pour améliorer les choses.
Qu'est-ce que vous appelez des systèmes résilients ?
Alors, c'est des systèmes qui, face à une perturbation majeure, sont capables d'une part de les amortir, de se réorganiser face à ces, ces événements et de les subir beaucoup moins brutalement que dans des systèmes non résilients. Pour le moment, une notion qui s'est développée dans ces 10-20 dernières années et qui est un peu balbutiante, mais qui vise à changer complètement la façon dont on va organiser nos villes. On les a conçues trop comme des villes de service, en oubliant que les villes interagissent avec leur environnement et que ces interactions peuvent être des fois très sévères. Il faut ne pas les oublier. Il faut concevoir les villes en fonction de ces possibilités.
Cela veut dire que ces villes sont aujourd'hui trop bétonnées ?
Alors en particulier, il y a le surbétonnage de certaines années qui accroît considérablement le ruissellement par rapport au contraire à des bassins plus naturels. Et donc actuellement, effectivement, une des premières mesures de type de mesure de résilience, c'est d'arrêter ce bétonnage, y compris de débétonner et d'introduire des mesures beaucoup plus souples pour le ruissellement, stocker l'eau par différents moyens. Par exemple, des terrains de sport peuvent être utilisés pour expansion des inondations. Terrain d'expansion des inondations. On peut modeler la ville pour être capable justement de diminuer sensiblement le ruissellement et à partir de là les inondations.
Mais on continuera par exemple à aménager des zones commerciales en périphérie de ville avec de gigantesques parkings. Alors comment faire ?
Alors il existe déjà des pavés non filtrants qui ne sont pas les pavés actuels où le ruissellement est à 100% dessus. Ici, il y a un pourcentage non négligeable d'infiltration qui peut être fait à travers ces pavés poreux.
Ce que vous évoquez là, Daniel Scherzer, finalement, ce sont des mesures de prévention.
Oui, par beaucoup de côtés, oui. Mais en même temps, il faut voir aussi qu'il y a des progrès à faire, scientifiques, au niveau de la prévision. On est face à des phénomènes dit fortement non linéaire, ça veut dire que la réponse du système n'est pas proportionnelle à l'excitation. Ça peut être par exemple des conditions météorologiques qui changent, se transforment brutalement et qui pourraient déclencher un orage dans certains cas et dans d'autres cas ne le feront pas.
Et ça, on n'arrive pas à l'anticiper ?
Il y a d'une part des limites absolument intrinsèques à nos capacités de prédiction qu'on ne peut pas dépasser. Mais pour le moment, on est loin de ces capacités-là. Et non, on a développé des processus de calcul, de mesures aussi physiques, pour pouvoir avoir de meilleures prévisions à court terme et effectivement prendre des mesures rapides face à des événements qui ont des risques de se transformer en catastrophes naturelles.
Et cela passe par une technologie spécifique ?
D'une part, il y a des questions technologiques de mesure des précipitations qui sont essentiellement grâce à des radars. Et il y a eu pas mal d'innovations de fait ces dernières années. Il y a une nouvelle génération de radars, qu'on appelle des radars à double polarisation et à bande X, qui permettent d'accroître la résolution des mesures en radar. On passe de la résolution d'un kilomètre à 100 mètres, donc un facteur 10. C'est évident que ce n'est pas négligeable. On pourra descendre en dessous de ces 100 mètres avec deux nouveaux types de radars qui commencent à se pointer à l'horizon. Donc il y a effectivement tous ces aspects technologiques qui sont moteurs sur les capacités d'apprécier la situation telle qu'elle est déjà. C'est déjà savoir quelles sont les conditions initiales avant de prévoir, c'est indispensable.
Daniel Scherzer, enseignant à l'École nationale des ponts et chaussées, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Conséquence de ces inondations meurtrières dans l'Aude, le remaniement gouvernemental a été reporté, a fait savoir aujourd'hui l'Élysée, qui souhaite donner la priorité aux opérations de secours. Ce remaniement pourrait intervenir avant la prochaine séance de questions au gouvernement, prévue demain à 15h à l'Assemblée, mais pour l'instant l'Élysée ne donne aucun agenda. Pascal Pavageau est ce soir un secrétaire général en sursis. Le patron de Force Ouvrière est mis en cause pour le fichage d'une centaine de dirigeants du syndicat avec parfois des commentaires injurieux. L'affaire révélée par le Canard enchaîné ébranle l'autorité de Pascal Pavageau 6 mois à peine après son élection à la tête de FO. Une commission exécutive devait se tenir mercredi pour examiner le cas Pavageau, mais la réunion a été reportée, Sarah Lemoine.
Pascal Pavageau ne va pas bien, confie un de ses soutiens. Il est en arrêt maladie. Conséquence, le secrétaire général de Force Ouvrière ne s'est pas présenté ce matin au siège de FO dans le 14e arrondissement de Paris. Son absence a entraîné l'annulation de la réunion du bureau confédéral prévue aujourd'hui et surtout le report de la commission exécutive qui devait se tenir après-demain. Une commission cruciale lors de laquelle Pascal Pavageau devait s'expliquer sur l'existence de fichiers occultes révélés par le Canard enchaîné. Sur les 35 membres de cette commission, 33 apparaissent dans ces mémos illégaux avec des commentaires sur leur orientation politique et pour certains des qualificatifs humiliants comme bête, mauvais, niais ou magouilleurs. Au total, plus de 120 cadres ont été fichés. En interne, les soutiens de Pascal Pavageau crient toujours au complot. Ses détracteurs, en revanche, lui demandent de démissionner et réclament que la commission exécutive de mercredi soit malgré tout maintenue.
Et Pascal Pavageau est aussi critiqué par son collègue de la CFDT, Laurent Berger. Lorsqu'on n'est pas conforme à l'éthique qu'on s'est fixée, il faut partir, a jugé ce matin le patron de la CFDT sur l'antenne de France Info. Des policiers turcs sont entrés ce soir dans l'enceinte du consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. C'est là qu'a disparu le journaliste saoudien Jamal Khashoggi le 2 octobre dernier. En Turquie, certains responsables affirment que cet opposant notoire au régime de Riyad a été assassiné. Les Occidentaux demandent des explications à l'Arabie Saoudite. Et sous la pression, les Saoudiens ont finalement accepté la fouille de leur consulat à Nandloer.
La fouille a commencé alors que la nuit était déjà tombée sur Istanbul. Une procédure inhabituelle qui signale l'urgence pour les Turcs de faire avancer l'investigation. Les enquêteurs turcs, qui ont fait installer autour du consulat un large cordon de sécurité, étaient accompagnés des membres de la délégation saoudienne arrivée à Istanbul vendredi dernier. Preuve que l'Arabie saoudite, à l'issue de négociations tendues avec la partie turque, a certes consenti à une perquisition, mais une perquisition commune, pour ne pas dire encadrée. Riyad nie depuis le début tout rôle dans la disparition de Jamal Khashoggi, sans pourtant apporter de preuves que l'éditorialiste a bien quitté sain et sauf le bâtiment diplomatique. De leur côté, les autorités turques ont laissé entendre plusieurs fois, par le biais de fuites dans la presse, que le journaliste critique avait été assassiné par une équipe de 15 personnes venues spécialement d'Arabie Saoudite. Tout l'enjeu de cette perquisition est d'en fournir la preuve, notamment grâce à des traces ADN, alors que 2 semaines se sont écoulées depuis les faits. Détail pour le moins intrigant, quelques heures avant l'arrivée de la police turque, des équipes de nettoyage sont entrées ostensiblement dans le consulat saoudien.
Anne Andloer, correspondante de RFI à Istanbul. Après avoir haussé le ton contre les Saoudiens, Donald Trump s'est voulu plus conciliant aujourd'hui. Selon le président américain, Jamal Khashoggi a peut-être été victime d'éléments incontrôlables. Donald Trump qui va envoyer à Riyad son secrétaire d'État Mike Pompeo. Les négociations sur le Brexit sont dans l'impasse. Confirmation ce soir avec ces propos de Donald Tusk que nous devons préparer l'UE à un scénario sans accord, plus probable que jamais. Voilà ce qu'écrit le président du Conseil européen aux dirigeants des États membres. Pendant ce temps-là, Theresa May reste inflexible devant la Chambre des communes à Londres. La première ministre britannique a une nouvelle fois rappelé son opposition à un statut spécial pour l'Irlande du Nord. Le reportage d'Aude Soufi.
C'est le moment de garder la tête froide et son calme, a commencé par dire la première ministre, et il lui a fallu immédiatement mettre ses conseils en pratique. C'est sous les éclats de rire et les cris de nombreux députés que Theresa May s'est adressée au Parlement. Mais elle a répété ce qu'elle avait déjà dit, l'idée de Bruxelles, selon laquelle l'Irlande du Nord resterait dans l'union douanière et le marché unique sans date limite, est inenvisageable.
La création de toute forme de frontière douanière entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni signifierait un changement fondamental dans le quotidien des entreprises d'Irlande du Nord, avec potentiellement des effets sur l'emploi et l'investissement.
La première ministre s'est pourtant dit convaincue qu'un accord était toujours réalisable entre Londres et Bruxelles, mais ce n'est pas l'avis des unionistes nord-irlandais du DUP sur lesquels repose la majorité de Theresa May au Parlement. Dans la soirée, elle doit rencontrer les nationalistes du Sinn Féin qui ont annoncé qu'en cas de no deal, ils demanderaient un référendum sur l'avenir de l'Irlande du Nord.
Aude Soufi, correspondante à Londres. En Italie, les membres du gouvernement populiste se sont mis d'accord ce soir sur le projet de budget pour l'an prochain. C'est ce qu'a annoncé le président du Conseil italien, Giuseppe Conte. Ce projet, qui prévoit notamment un déficit public de 2,4% du produit intérieur brut, sera remis à la Commission européenne avant minuit ce soir, dernier délai fixé par les règles européennes. En Allemagne, les forces spéciales ont neutralisé aujourd'hui un preneur d'otages dans la gare de Cologne. 2 personnes ont été légèrement blessées dans cette agression. Le preneur d'otages, lui, a été grièvement touché par balle. La police allemande n'exclut pas une tentative d'attentat islamiste. Le temps demain restera très pluvieux sur les régions méditerranéennes. L'Aude est maintenue en vigilance rouge pour le risque de crue. 3 départements sont en vigilance orange. L'Hérault, les Pyrénées-Orientales et l'Aveyron. De la Bretagne au sud-ouest, il pleuvra faiblement une partie de la journée. Ailleurs, soleil et chaleur s'imposeront rapidement. Température minimale de 8 à 18 degrés du nord au sud. Les maximales restent très élevées pour un 16 octobre. De 16 à 22 degrés en général, jusqu'à 26 degrés dans le nord-est. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun.